Les podcasts des éditions John Libé présentent la série Good Morning Hémato, une série de podcasts consacrés à l'actualité congrès et à la pratique métier de l'hématologue. Ces podcasts sont réalisés avec le soutien institutionnel du laboratoire Jazz Pharmaceuticals. Dans ce podcast, le docteur Hélène Labussière-Wallet, hématologue à l'hôpital Lyon Sud Pierre Bénite, et le docteur Johan Desbrosses, hématologue à l'hôpital Jean Majos de Besançon, font le point sur la communication médecin-patient et nous proposent des pistes d'amélioration.
Je suis Johan Desbrosses, praticien hospitalier au sein du service d'hématologie du CHRU de Besançon, dans le secteur des soins intensifs où nous prenons en charge les patients suivis pour une leucémie aiguë ou allogreffe.
Je suis Hélène Labussière-Wallet, je travaille en tant que praticien hospitalier dans le service d'hématologie de l'hôpital Lyon Sud. Comme Johan, j'exerce dans une unité où sont réalisées les chimiothérapies intensives pour les leucémies aiguës et les allogreffes de cellules souches hématopoïétiques. Aujourd'hui, dans ce podcast, nous allons aborder la communication médecin-patient en hématologie. Au cours de notre formation, cette facette de notre métier est celle que nous apprenons finalement le moins, alors même qu'elle est sans doute la chose la plus primordiale dans notre pratique quotidienne. Se former sur les maladies, leur prise en charge, nous l'apprenons dans les livres depuis de nombreuses années et nous nous mettons à jour en continu. Mais parler aux patients, comment devons-nous faire ? Johan, crois-tu qu'il existe des méthodes de communication qui fonctionnent avec tout le monde ?
Alors, un de mes internes m'a justement demandé récemment comment devait se dérouler l'annonce du diagnostic de la maladie. Est-ce qu'il y avait une sorte de checklist, des informations à transmettre au patient et à son entourage ? Et surtout, comment on apprenait à réaliser ce type d'entretien ? Je lui ai d'emblée répondu qu'on ne pouvait que s'améliorer avec le temps. Je l'ai d'ailleurs invité à assister le plus souvent possible à ces entretiens pour s'approprier les bonnes pratiques de chacun. Le premier conseil que je lui ai donné, c'est de s'adapter. Adapter le contenu et la forme de cet entretien au patient, à ses attentes, et à ce qu'il était en mesure d'entendre à ce moment précis.
Oui, tous les patients n'arrivent pas dans les mêmes conditions lors de cet entretien. Certains sont déjà avertis du diagnostic, parfois ils se sont même déjà renseignés parmi leur entourage ou sur Internet, alors que d'autres ne savaient même pas qu'ils étaient malades le matin même.
C'est vrai, je pense aussi qu'il est fondamental que cet entretien soit vécu le mieux possible par le patient. Il va s'en souvenir toute sa vie, et c'est souvent son premier contact avec le monde de l'hématologie. Récemment, une patiente suivie dans notre service depuis plusieurs années m'a rappelé que c'était moi qui l'avais accueillie aux urgences. C'est moi qui lui avais annoncé sa maladie.
Oui, le contexte n'est jamais évident car il s'agit d'une annonce qui s'apparente au coup de tonnerre dans un ciel calme. Bien souvent, le patient n'a pas eu une succession d'examens étalés sur plusieurs jours, plusieurs semaines pour parvenir au diagnostic et lui permettre de se préparer à entendre une mauvaise nouvelle. Dans certains cas, il est pris en charge en urgence pour une complication, affronte une batterie d'examens dont le myélogramme. Il a alors souvent conscience qu'une pathologie d'une certaine gravité est recherchée. Dans d'autres cas, il peut aussi s'agir d'une découverte complètement fortuite chez un patient qui se sent en pleine forme. Je me souviens d'ailleurs d'un patient chez qui on a posé le diagnostic sur un bilan systématique au retour d'une randonnée de plusieurs semaines.
Ok, mais alors à ce moment-là, comment débutent toutes tes explications ?
Le plus important pour moi, c'est de commencer par demander au patient ce qu'il a compris. Cela me permet d'adapter le début de la consultation, de gommer les idées fausses par exemple. J'explique aussi que je vais employer des termes nouveaux, techniques, qui peuvent être compliqués, et je vais les expliquer. Mais j'invite le patient à m'interrompre et à me poser des questions s'il ne comprend pas. En fait, j'essaie de le mettre à l'aise.
C'est sûr que beaucoup de patients ne savent pas expliquer précisément ce qu'est une leucémie, mais ils savent que c'est grave et ce mot leur fait peur. Certains d'entre eux n'osent même pas le prononcer. Toi, comment amènes-tu les choses ?
Eh bien, pour les mettre le plus à l'aise possible, j'essaie de partir de la physiologie et de ne pas tout de suite parler de la maladie. J'explique le fonctionnement de la moelle osseuse, la notion de cellules souches dont ils ont souvent entendu parler, les cellules sanguines, leur fonctionnement. Puis, j'aborde l'apparition de la maladie, l'accumulation d'anomalies au niveau d'une cellule.
C'est d'ailleurs souvent à ce moment que les patients, et surtout leur entourage, demandent s'il y a des facteurs favorisants. Il leur est souvent difficile de comprendre que malgré une bonne hygiène de vie, une telle pathologie peut apparaître.
Exactement. Je leur explique que très souvent, aucun facteur favorisant n'est retrouvé. Que la maladie peut apparaître chez des patients très jeunes, des enfants par exemple. J'en profite aussi à cette occasion pour savoir s'ils n'ont pas été exposés à des produits toxiques, notamment dans le cadre de leur activité professionnelle. Ça serait alors l'occasion d'organiser une consultation spécifique de dépistage.
Ok, mais ensuite, tu leur expliques le traitement ?
En fait, non, pas encore. J'explique d'abord les conséquences de la maladie sur les symptômes, sur les anomalies biologiques qui ont conduit à leur diagnostic. Je pense que le patient va être plus serein s'il comprend sa maladie. mais ce n'est pas toujours facile, car on aborde des notions nouvelles pour la majorité des patients, l'anémie, les plaquettes.
C'est sûr qu'il y a de nombreux termes techniques. On a beau en avoir conscience et on a beau essayer de les rendre abordables, on ne se rend pas vraiment compte du décalage entre nos propos et la masse d'informations nouvelles que cela représente pour le patient. Comment abordes-tu ensuite le traitement ?
Et à ce stade, le discours peut vraiment varier d'une situation à l'autre. Pour certains patients, les plus jeunes, on sait que le traitement prendra place dans une chambre stérile. Cela permet de donner des informations spécifiques. Pour d'autres, il sera administré plutôt sur un mode ambulatoire ou en hôpital de jour. Pour d'autres, enfin, ce n'est pas encore établi. Très souvent, on ne dispose également pas à ce stade de l'ensemble des caractéristiques de la maladie et du schéma de traitement précis, notamment l'accès au traitement ciblé, par exemple. En fait, j'essaie de faire passer des messages simples qui seront ensuite repris quand le plan de traitement précis sera établi. J'essaie de donner des repères aux patients.
Il est vrai que les patients ont besoin de se projeter, de savoir quel va être le retentissement sur leur vie de tous les jours, leur vie de famille, leur travail. Ils viennent déjà de recevoir un diagnostic très lourd et sont confrontés à de nombreuses notions nouvelles. Personnellement, je leur parle assez facilement de la durée du traitement. J'explique qu'il va s'étaler sur plusieurs mois, avec des allées et venues à l'hôpital, et que pendant cette période, leur quotidien va être mis entre parenthèses. De ton côté, en profites-tu pour faire passer d'autres notions ?
Oui, j'essaie d'introduire la notion d'essai thérapeutique.
C'est compliqué, ça. Souvent, ça leur fait peur. Comment fais-tu ?
Je repars du myélogramme. J'explique que cet examen a été réalisé pour poser le diagnostic, mais aussi pour caractériser la maladie, pour rechercher ces anomalies génétiques et moléculaires qui vont ensuite nous guider dans le choix du traitement, le suivi et nous aider sur le pronostic. Quand le diagnostic vient d'être posé, on n'a pas encore accès à ces informations et je trouve que les patients comprennent finalement assez bien qu'on ne va pas leur donner leur plan de traitement précis sans ces éléments. Et à ce moment-là, j'introduis la notion d'essai thérapeutique en expliquant la possibilité d'accès aux nouvelles molécules, la nécessité d'évaluer objectivement une nouvelle stratégie de traitement qui nous paraît intéressante par rapport au traitement de référence, par exemple. J'essaie aussi de rassurer le patient et de répondre à ses appréhensions par rapport au fait de participer à un essai. Je dis qu'à ce stade, on ne sait pas encore si un essai peut lui être proposé et qu'en fonction de sa maladie, on sera peut-être amené à lui en reparler. J'essaie aussi de mettre le patient en confiance avec cette notion, de le préparer, de lui dire qu'il aura toujours le choix de participer ou non et que dans tous les cas, nous respecterons sa décision. Mais parfois, c'est plus difficile parce qu'il faut débuter le traitement en urgence, parfois le jour même.
Et dans ces situations, il faut d'emblée parler des effets secondaires des traitements. Les patients ont d'ailleurs en général beaucoup de notions à ce sujet, sur la chute des cheveux, sur la nausée, la fatigue par exemple. J'essaie de mettre l'accent sur les traitements préventifs qui sont désormais assez efficaces pour les nausées par exemple. Dans notre service, comme dans beaucoup d'autres, on a des vélos dans les chambres. Et il y a quelque temps, quand je suis rentré dans une chambre pour la visite, une patiente en cours de chimiothérapie d'induction d'une LAM était sur son vélo en train de pédaler. Désormais, j'utilise beaucoup cette image pour montrer aux patients qu'ils ne vont pas être confinés sur leur lit tout au long du séjour et je les encourage à être actifs, car cela a de bonnes conséquences sur leur image personnelle, leur morale et leur état de forme à la sortie.
Cela les rend acteurs de leur traitement. C'est bien de leur montrer qu'ils ne sont pas seulement là pour subir. Et ensuite, pour ceux que cela concerne, est-ce que toi, tu leur parles de la suite, de la rémission, de la greffe, par exemple ?
Ça dépend du déroulé de l'entretien. Parfois, c'est même le patient qui pose la question. En pratique, j'explique la notion de rémission, que c'est l'objectif de la première cure de chimiothérapie. Je dis aussi qu'une seule cure ne permet pas de guérir une leucémie, même si elle a bien fonctionné, et qu'il va falloir consolider cette réponse. Là encore, je me repose sur le fait qu'on ne connaît pas encore complètement les caractéristiques de la maladie, son agressivité, la façon dont elle va répondre à la chimiothérapie d'induction et que la décision de greffe sera prise en fonction de tout cela. Je laisse la porte ouverte et je m'adapte aux demandes du patient à ce stade. Certains d'entre eux vont avoir besoin de concret sur la recherche du donneur, par exemple, alors que pour d'autres, on a le sentiment que la masse des informations qu'on a partagées avec eux leur suffit. Ce qui est plus difficile, ce sont les questions sur le pronostic.
Oui, tout à fait. Tous les patients n'abordent d'ailleurs pas ce point. Comme tu fais pour la greffe, je m'adapte vraiment aux demandes du patient. Certains vont directement demander « est-ce que je vais guérir ?»« Quel est le pourcentage de réussite ?» alors que pour d'autres, on comprend qu'ils ne préfèrent pas savoir. J'essaie de faire passer le message d'un travail d'équipe. On est avec eux pour les accompagner, on va se battre à leur côté, avec eux, avec leur entourage. Nous n'avons d'ailleurs pas beaucoup parlé de ces derniers jusqu'à maintenant. Comment gères-tu les proches, la famille ?
Pour les proches et la famille, j'essaie le plus souvent de faire en sorte qu'ils soient présents dans ces moments, ce qui n'est pas forcément possible, notamment dans le cadre de l'urgence. L'important, à mon sens, ce n'est pas forcément de donner la même information, même si c'est essentiel, c'est surtout de la donner en même temps, pour que tout le monde puisse débuter le combat de la maladie avec les mêmes bases. L'annonce aux proches se fait parfois par téléphone. J'utilise alors le haut-parleur pour que le patient et les proches soient informés dans le même temps et que chacun puisse voir ce que l'autre a compris ou non, comme pour effacer les idées fausses dont tu parlais tout à l'heure. Et puis cela permet souvent d'acquérir plus d'informations. L'un aura retenu tel point, l'autre tel autre point.
C'est sûr qu'une masse importante d'informations va leur être transmise. Jusqu'où vas-tu, toi, dans les explications initiales ?
C'est toujours la même chose. Il faut s'adapter aux patients. Certains veulent en savoir beaucoup, d'autres très peu, en tout cas au début. Je crois qu'il faut surtout s'assurer que lui et son entourage aient compris les informations. Les comprendre d'emblée est parfois difficile, mais il faut s'assurer sans cesse que les informations qu'ils ont retenues sont les bonnes. Il faut revenir constamment sur la maladie, sur les risques, sur les complications, les traitements et ce qu'on en attend, constamment. C'est comme ça, à mon sens, que la communication médecin-patient s'établit au fur et à mesure et que la relation de confiance s'installe progressivement. L'objectif, avant tout, c'est surtout de les mettre assez en confiance pour qu'ils n'hésitent pas à nous poser des questions, même celles qui nous paraissent parfois les plus anodines.
Oui, tu parles de la relation médecin-patient, mais la communication se résume-t-elle à ce duo ou peut-elle s'élargir à d'autres membres de l'équipe soignante à l'heure où l'on parle de plus en plus souvent des dispositifs d'annonce?
De la même façon qu'il est important que l'entourage soit présent, il est primordial d'intégrer toute l'équipe en charge de la personne lors de ces entretiens. Il faut que chaque professionnel au contact du patient participe à ces échanges. Infirmière, psychologue, étudiant. L'hématologie, au même titre que l'oncologie, est une discipline particulière où souvent les professionnels ont choisi d'être présents et d'y travailler. Certaines personnes y travaillant depuis de nombreuses années m'ont appris énormément sur la façon d'amener les choses aux patients et à l'entourage. Faire en sorte qu'elles soient présentes lors de ces discussions, c'est aussi un moyen de vérifier si les explications étaient claires et adaptées et si elles sont a priori comprises. Comme elles sont également beaucoup plus souvent au contact de la personne que nous, elles peuvent également s'en assurer a posteriori et nous ressolliciter ensuite.
C'est sûr que nous sommes régulièrement et malheureusement confrontés à de graves complications ou à des rechutes qui remettent en question tout le projet initial. Après, grâce à tous ces outils, si nous avons réussi à installer une communication et une relation de confiance entre l'équipe, le patient et son entourage, ces choses-là, surtout quand elles sont anticipées, peuvent finalement être plus facilement acceptées.
Je me rends compte qu'en discutant avec toi aujourd'hui, j'apprends toujours sur cette communication. J'ai pris note de certains de tes outils et méthodes pour expliquer et amener les choses. Si nous voulons retenir trois points clés, le premier, s'adapter au patient. Donc l'écouter vraiment, s'assurer de ce qu'il a compris, s'adapter à ses demandes. Veut-il en savoir plus sur la grève? Veut-il connaître le pronostic? Deuxièmement, impliquer l'entourage et les proches très tôt. Cela leur permet de mieux comprendre les étapes du parcours de soins et de gagner leur confiance. Et enfin, intégrer les équipes soignantes, infirmières, psychologues, qui sont plus souvent au contact avec nos patients.
Ne manquez pas nos prochains podcasts sur l'actualité de la leucémie, du myéloïde et de la greffe. Ce programme est soutenu par le laboratoire Jazz Pharmaceuticals. Il est réalisé en toute indépendance et sous la seule responsabilité des auteurs et du directeur de la publication, qui sont garants de l'objectivité de l'information délivrée. Ce programme a pour objectif de fournir des informations sur l'état actuel de la recherche. Les données présentées sont susceptibles de ne pas être validées par la commission d'autorisation de mise sur le marché et dans ce cas ne doivent donc pas être mises en pratique. Le docteur Johan Debros déclare avoir des liens d'intérêt avec AbbVie, Celgene, Jazz Pharmaceuticals, Novartis. Le docteur Hélène Labussière-Wallet déclare avoir des liens d'intérêt avec AbbVie, Gilead, Jazz Pharmaceuticals, Neovie, Terracos.